C'est plus d'infos locales.
Tard, hier au soir, t'as rencontré les flicards. T'es déshonneur, t'aurais dû mettre un costard. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez, hop, tu t'es retrouvé.
Bien en route pour la deuxième partie de l'émission de Noir. Donc je vais rappeler quand même les coordonnées exactes du livre dont on a parlé en première partie.
Les références.
Les références pour coller aux coordonnées. C'est donc un livre qui s'appelle Polar et films noirs, les 50 plus belles histoires, chez Timé Éditions. Pour la somme de 13,50 euros, 50 histoires, ça fait quand même pas cher l'histoire. Et les auteurs en sont donc François Guérif et Claude Mesplède. Faites attention, c'est un format un petit peu particulier. C'est un livre, c'est un petit livre, non par sa qualité bien sûr, mais c'est un petit livre avec une tranche violette et grise. Donc il faut le chercher, sinon il faut le commander. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de cadeau pour des gens qui ne seraient pas passionnés justement, mais qui aimeraient bien comme ça, qui, feuilleter ou lire quelques romans noirs ou quelques livres policiers dans l'année.
Oui, c'est une très bonne façon de rentrer dans le... dans le monde du roman noir.
Et d'apprendre voilà. Plein de petites anecdotes, ou sérieuses, ou amusantes, voire tragiques, malheureusement, c'est quand même du roman noir. Et c'est vraiment très, très intéressant. Alors, dans l'actualité, la ressortie, on en est très content, d'un magazine qui avait vu le jour au début de l'année, au début 2006, et puis qui, par quelques problèmes financiers, avait dû interrompre quelques mois sa publication, c'est Shanghai Express. Donc, sous-titré, on va dire, feuilleton crimes et récits noirs, avec une publication, je pense que c'est à peu près 8 par an. Alors, tout de suite, on va se débarrasser du prix. Il y a un abonnement, le numéro est à 6 euros, et il y a un abonnement qui est très agréable, je trouve, parce que c'est la, pour découvrir 4 numéros pour 20 euros. Donc, c'est intéressant, des critiques. Et puis, ils reprennent un genre désuet et qui est perdu depuis pas mal de temps, mais qui est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu, comme beaucoup de magazines, d'écrire des nouvelles avec les nouvelles complètes, on a des feuilletons, comme à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, ça a été à l'origine de nombreux romans policiers. Alors, c'est une bonne idée parce que ça fidélise le public, comme évidemment l'auteur a la bonne idée de s'arrêter juste à la fin, dans une fin haletante. Donc, un bon magazine, Shanghai Express. Là, on en est au numéro 5,
voilà,
décembre 2006.
Il y a de nombreuses interviews.
Thierry Jonquet, voilà. Machiavelli, dont on parlait tout à l'heure avec... Ça, Machiavelli, dont on parlait avec Claude Mesplède, sur ses derniers romans. Et puis, James Salis et Thierry Jonquet, qui a sorti un excellent roman.
Un roman qui a fait polémique, donc... ça peut être intéressant d'entendre son opinion, enfin de lire au moins son opinion.
Donc on va partir en Amérique du Sud avec Leonardo Padura qui est publié chez Métayer, Les Brumes du Passé, la traduction est d'Elena Zayas, et c'est un livre qui vaut 21 euros. Donc Mario Condé, c'est le personnage fétiche de Padura, on le suit depuis déjà quelques romans. En fait, au tout début de sa publication, il était flic et il a démissionné dans ce livre il y a une dizaine d'années. Il s'adonne maintenant à sa passion pour les livres en rachetant des bibliothèques entières à des Cubains qui n'ont plus que cette solution pour bouffer. Par hasard, il tombe sur un trésor bibliophilique comportant nombre d'incunables et de raretés. Mais surtout, dans un des livres, il va trouver l'image de Violeta del Rio, la Dame de la Nuit, une chanteuse disparue depuis des années. Et l'ancien flic est littéralement envoûté d'abord par l'image et ensuite par les chants de Violetta qu'il va découvrir. Au fur et à mesure, parce qu'il demande à un ami de lui trouver des enregistrements. Et quand il découvre que Violetta a disparu, puis qu'elle est morte, il n'aura de cesse de comprendre pourquoi, un jour, on a pu faire taire cette voix magnifique. Surtout, lorsqu'un des propriétaires des livres est à son tour découvert assassiné. Une fois encore, c'est fréquent dans les romans de Padura, les sombres brumes du passé cubain vont rejaillir et vont obscurcir le présent de Mario Condé. Heureusement, il y a ses copains, c'est devenu sa seule richesse, la seule richesse qui lui reste, et quand même un petit peu les plats que lui cuisine un de ses meilleurs amis qui s'appelle le Flaco. Ces plats embaument, la recette de la morue à l'ail, ça a l'air d'être quelque chose. Sous prétexte d'une intrigue et d'une enquête, Padura nous livre sa vision de Cuba actuellement et toutes les désillusions des gens de sa génération. Sa plume est encore trempée dans les teintes un peu grisées de la mélancolie et des regrets amers, des illusions perdues, du temps qui passe. Et il y a vraiment une atmosphère très particulière dès le début du roman. Le lecteur se surprend à entendre la voix lointaine qui lui susurre quelques boléros. Il hume comme ça entre deux lignes les effluves du rhum ou d'un cigare. Et quand il referme le livre, les mots de Padura résonnent encore longtemps dans sa tête. Et on a un petit peu le parfum de cette dame de la nuit de Violetta qui poursuit le lecteur encore longtemps. Ça reste un petit peu, ça reste vraiment comme une réminiscence, comme un écho dans notre esprit. C'est un livre très, très intéressant et très agréable à lire. Alors, pour la petite histoire, les premiers romans de Leonardo Padura qui ont comme personnage principal donc ce flic puis ex-flic Mario Conde sont réédités en point seuil. C'est intéressant parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher.
En point seuil. Oui, collection point policier, c'est ça.
Point seuil policier. Donc pour l'instant, deux titres de disponibles. D'ailleurs, ce n'est pas les deux premiers, c'est le premier et le troisième, mais enfin, on s'en sort quand même. Et là, je crois que c'est pour 8,50 € ou 9 €, donc ça vaut le coup quand on ne connaît pas de commencer par la collection poche, même si Métayer fait un excellent travail et qu'on incite beaucoup à découvrir ses éditions. Donc Jacques, on vient en France.
Oui, en partie, avec un auteur français qui s'appelle Laurent Leguevac. On en a déjà parlé une fois ici, je pense. Il vient d'écrire un roman qui a un titre excellent, Je ne parle pas aux femmes, dans la collection, enfin l'édition c'est Les Cahiers du Sud, et la collection s'appelle Over Littérature, parce qu'en fait c'est pas vraiment des romans noirs, c'est pas franchement un essai non plus, c'est un truc un peu à part.
Je me permets d'évoquer une très légère protestation quant à ton fait que tu trouves ce titre excellent, mais ça doit être mon côté féministe.
Non, mais je partage pas forcément son avis, mais je trouve le titre excellent, ça sonne quoi. Voilà, donc en fait, celui qui parle pas aux femmes, c'est Thierry Chanvre. Sa femme vient de le quitter, enfin il y a un petit moment, et un beau soir, un peu, disons, pris de boisson, il décide de plus parler aux femmes, mais alors du tout. Ni même aux petites filles qu'il peut croiser dans le parc, ni même, en fait, il pousse vraiment le truc assez loin, ni même à tout type de femelle, en fait. Il a un chat, heureusement que c'est un mâle, parce que sinon, il n'adresserait plus la parole non plus. Il décide ça, et il s'y tient. Et dans sa vie, Thierry Chanvre, il est magistrat. En fait, il a été magistrat, longtemps juge, et il a quitté son poste pour un... Il a quitté, ou on l'a fait quitter un petit peu, son poste pour un boulot à mi-temps au... Alors, CEVVOP, le CEVVOP, c'est le Centre d'études sociales à vocation d'observatoire pénal. Je pense que ça n'existe pas, mais c'est un truc que l'auteur a inventé, fait à partir de fonds européens. Voilà. Et lui, donc, il travaille là-dedans, et il va prétexter une étude sur le Caravage, qui est donc bien connu comme étant le peintre assassin.
Ah oui, parce que beaucoup moins comme magistrat quand même.
Le Caravage qui est peintre assassin, donc il va essayer pour ramener ça à la vocation pénale, donc il va essayer de faire une étude sur le Caravage à Malte. Donc il s'en va pendant une semaine à Malte avec Dino, qui est son copain de bureau, et Marion Lidl, sa chef.
Voilà. Ça doit être dur de partir avec sa chef pour lui.
Donc ça, c'est un peu le pitch du roman. On se demande comment il va faire pour aller jusqu'au bout sans parler aux femmes. Il va avoir une aventure avec sa chef à Malte et tout. Et en plus, c'est pas du tout un simple exercice de style. C'est un court roman, un petit peu objet atypique, comme je disais au début, qui n'est ni vraiment un polar ni un roman noir. Il y a une petite intrigue, mais voilà, c'est... Et il y a une phrase quand même qui est en exergue du roman, qui est de Michel Abarek, donc qui est un des meilleurs copains de Laurent Leguevac, pour un peu expliciter le titre. C'est « Le silence a toujours été le meilleur frein à la propagation de la connerie ». Donc voilà,
oui,
à retenir pour vos...
Oui, mais je n'en tirerai aucune conclusion, puisque s'il ne parle plus aux femmes, cela tendrait à dire... C'est assez tendancieux, quand même, je trouve.
Ah, il ne parle plus, mais ce n'est pas qu'il ne leur parle plus. Ça n'empêche pas, quand même, qu'il puisse avoir quelques relations, même sexuelles. On n'est pas obligé de parler, ceci dit. Ce n'est pas forcément plus mal, sait-on jamais. D'ailleurs, il y a une fin qui est assez étonnante dans ce roman, que je ne vous dirai pas, bien évidemment.
Puisque c'est quand même du roman noir.
Voilà. Et donc, en fait, Laurent Leguevac, juste lui, que c'est bien de quoi il parle, parce qu'il a été juge lui-même pendant quelques années, avant de démissionner pour un peu les mêmes raisons que son héros, c'est-à-dire qu'il a été en froid, en très grand froid avec son administration, qui ne lui donnait pas les moyens d'exercer son boulot correctement. Il a même écrit, d'ailleurs, un récit pour expliquer ça, qui s'appelle « Un juge s'en va ».
Et il a co-écrit d'ailleurs avec Michel Ambarek, dont la phrase a été citée tout à l'heure, un excellent roman à la série noire dont j'ai le mauvais goût de ne plus me souvenir du titre. Et malheureusement, je suis avec le bouquin, on ne cite pas la bibliographie de Laurent Leguevac. Donc le mieux, c'est d'aller chercher sur Internet. Le titre, c'est vraiment très bien. On en avait parlé il y a quelques années.
Tout à fait.
Donc excellent roman à la série noire. Il est toujours disponible.
Voilà. Et donc là, je rappelle donc... Le titre, ça, bon, le titre j'en ai beaucoup parlé, c'est « Je ne parle pas aux femmes », et vous allez voir que c'est une façon assez étrange de passer sa vie. L'auteur, c'est Laurent Leguevac, a publié à Les Cahiers du Sud, c'est pas très cher, 7 euros.
Voilà, alors on va passer à un morceau de musique, il faut expliquer pourquoi on va passer de ce morceau de musique.
Et ben en fait, c'est plutôt pour illustrer la première partie de notre émission, donc pour l'art et film noir, on va passer donc un extrait de la musique bande originale d'un film, et surtout que Claude Mesplède est un fan absolu de musique de film.
Il en passionné,
comme passionné, il doit en avoir au moins 2000. Donc voilà, vous allez reconnaître, en fait, c'est Miles Davis, et c'est le premier thème de Ascenseur pour l'échafaud.
Oula, ce morceau s'arrête brusquement.
Attends, c'est l'ascenseur pauvre qui arrive au premier étage.
D'accord, donc l'ascenseur arrive à l'étage de James Wayne.
Voilà,
James
Wayne. Entre-temps, on a quand même retrouvé le nom du roman dont on parlait tout à l'heure, de Laurent Leguevac et Michel Ambarek,
qui s'appelle donc Accusé, couchez-vous, à la série noire. Ça a quelques années, mais il est encore disponible. Donc Jacques, toi, tu vas nous parler d'un auteur...
Oui, alors rapidement, d'un auteur, James Wayne. Enfin, je vais parler de son premier roman. Qui a eu le prix Calibre 38, qui est décerné par une association depuis presque au moins une bonne vingtaine d'années, par une association qui est maintenant à Bordeaux. Le roman s'appelle « Le sens de l'arnaque » et c'est paru chez Point Policier. Donc 7,50 €.
Chez Seuil.
Chez Seuil, oui. La collection Point, donc c'est une petite collection qui est très belle, qui réédite en fait aussi les romans qui sont parus dans la grande collection de Seuil Policier.
Et je trouve qu'en ce moment, ils font un très très beau travail éditorial, si je peux me permettre.
Tout à fait. Et donc, ce roman s'appelle « Le sens de l'arnaque ». Et il met en scène Tony Valentine, qui est un flic à la retraite, spécialiste de la fraude dans les casinos. Il est appelé à la rescousse par Nick Nicrocopoulos, qui est le directeur d'un casino à Vegas. Ce directeur de casino vient de se faire arnaquer de quelques centaines de milliers de dollars par un joueur à l'habilité, disons, suspecte. D'après les fichiers de ce flic, ce joueur-là, il est mort depuis 2 mois. Donc, effectivement, il sent tout de suite qu'il y a une arnaque.
Il peut y avoir des squelettes habiles.
Voilà, c'est pas... Donc, il va enquêter, il va essayer de trouver et de l'arrêter, d'empêcher l'arnaque suivante, évidemment, parce que comme il ne s'est pas fait prendre, il va essayer...
S'il est mort.
Voilà, ouais.
S'il est mort,
Et non, mais il n'est pas mort, puisqu'il a arnaqué. Voilà, c'est pas un grand roman, mais c'est très, très divertissant. Et ça permet en plus de se balader dans l'univers des casinos de Las Vegas, mais un petit peu derrière les bandits manchots, dans tous les endroits qu'on voit pas, les salles de surveillance et les trucs comme ça.
Alors c'est marrant parce que c'est vraiment très très à la mode. Alors il y a eu le fameux film Ocean's Eleven, mais apparemment il y a beaucoup de nouvelles séries qui sont en ce moment essayées d'être testées, qui reprennent l'univers du jeu. Cet univers impitoyable.
Si jamais vous aimez celui-là, eh ben il vient de sortir la deuxième aventure, la deuxième enquête de Tony Valentine ou Valentine dans la grande collection. Ça s'appelle Easy Money.
Voilà, et rapidement, Jacques, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Alors rapidement, deux petits cadeaux, deux petits joyaux pour Noël. Le premier, c'est un roman de Christopher Moore qui vient de sortir, qui s'appelle Le Sceau de l'Ange. C'est difficile de raconter un Christopher Moore, il y a des personnages loufoques. Et là, c'est donc un conte de Noël, c'est en Californie, à Pine Cove, le même patelin où il y avait eu le lézard
lubrique,
voilà. Qui était sorti des fonds sous-marins pour assouvir un gros appétit sexuel. Ici, c'est Joss, qui est un jeune marmot de 7 ans, qui voit le Père Noël se faire assassiner. Et il prie, et du coup, l'archange Gabriel, qui est lui le héros aussi d'un autre roman de...
Oui, ça s'appelle La
Christopher,
Bible.
Christopher Moore, qui est de la Bible, mais aussi de l'agneau. Il sort du ciel, il vient essayer d'aider Joss pour trouver qui a tué ce Père Noël, voilà. C'est éclat de rire assuré, mais aussi c'est une réflexion sur certains travers de la société américaine, voire de la nôtre. Donc si vous détestez la période de Noël, comme certains d'entre nous, c'est le truc idéal.
Alors il faut peut-être préciser, Le Sceau de l'Ange, c'est S-O-T.
Oui, le sceau de... oui, bien sûr. Et c'est paru chez Kalman Levy et traduit par l'excellent Luc Baranger.
Voilà, et vraiment, c'est un livre à conseiller, à offrir,
voilà, comme la plupart des Christopher Moore, mais celui-là, c'est vraiment un régal. Donc, il nous reste peu de temps juste pour vous souhaiter un bon boudin, comme on dit dans le coin, et de très bonnes fêtes. Et puis, voilà, on se retrouvera en début d'année prochaine.
De bonnes et saines lectures.
Voilà. À bientôt.